Bonjour Marc Ecker.
Bonjour Sylvie Noël.
Vous rappelez dans « Djihadisme et contre-terrorisme au XXIe siècle » que vous co-signez avec Elie Tenenbaum que quand Henry Kissinger avait signé les accords de Paris mettant fin à la guerre au Vietnam, il avait confié au président Nixon d'avoir voulu maintenir l'illusion d'un intervalle décent entre le retrait américain du Sud-Vietnam et la chute de Saïgon. Cet intervalle fut de 2 ans. Lors du retrait de l'armée rouge d'Afghanistan, le gouvernement afghan de l'époque avait survécu 3 ans. Pouvait-on imaginer pire scénario pour la stratégie américaine de l'après 11 septembre, un retour des talibans au pouvoir si rapide qu'il s'est même produit avant la fin du retrait de l'armée américaine d'Afghanistan ?
On peut toujours faire des exercices intellectuels et imaginer des scénarios plus noirs, mais là il est vrai que c'est quand même un scénario catastrophe qui vient de se dérouler. Vous rappeliez cette expression cynique d'Henry Kissinger, l'intervalle décent. Il est vrai que cette fois-ci, il n'y a pas eu d'intervalle décent et les talibans sont rentrés dans Kaboul avant même le retrait des troupes américaines. Donc ça a été une forme d'humiliation pour les États-Unis.
Dans votre livre, vous séquencer les 20 ans de guerre contre le terrorisme en 5 actes. Finalement, au terme de ce départ des Américains d'Afghanistan, quelles auront été les erreurs les plus manifestes qui ont été commises ?
Il est difficile de répondre brièvement à cette question. C'est vrai que dans le livre « La guerre de 20 ans », il y a de très nombreux enseignements stratégiques. Je dirais que un élément frappant, c'est l'hubris américaine au début de cette guerre, avec cette volonté non seulement d'éradiquer Al-Qaïda et les groupes de portée globale, mais également de reformer le Moyen-Orient et d'imposer la démocratie par les armes, avec, au-delà de la première phase militaire qui a conduit d'abord au renversement des talibans en 2001 et puis ensuite en 2003 au renversement de Saddam Hussein, la volonté de reconstruire des nouveaux états, des états démocratiques, et cette reconstruction a été un vrai échec. C'est ce qu'on appelle le state building, et on en a beaucoup parlé ces dernières semaines au sujet de l'Afghanistan. C'est vrai que le state building n'a pas fonctionné. Les états qui ont été constitués ont été en partie des états Potemkin, en partie des états prédateurs, et ils ont fini par être rejetés par les populations, ce qui a fait le lit des insurrections.
Et la leçon, c'est que donc gagner la guerre ne suffit pas. Concernant l'éradication du terrorisme, vous retenez aussi dans votre livre que cette éradication finalement n'est pas possible. Au mieux, dites-vous, on peut le contenir, c'est cela ?
On voit que sur les 20 dernières années, l'éradication de la mouvance djihadiste, qui était l'objectif fixé par George W. Bush, c'est le terme qu'il avait employé, n'a pas eu lieu. Et au contraire, il y a aujourd'hui en fait plus de djihadistes qu'il y a 20 ans. Ça, c'est un rapport d'un think tank américain, le CSIS de 2018, qui estime qu'il y aurait aujourd'hui 2 à 3 fois plus de djihadistes qu'en 2001. Donc on voit que cette mouvance, loin d'être éradiquée, tend plutôt à se répandre, même si elle fait l'objet d'une forte attrition, mais ils arrivent à recruter et à renaître de leurs cendres à chaque fois. Et effectivement, aujourd'hui, l'ambition est plus faible, c'est-à-dire que l'éradication ne semble plus possible, et donc on est davantage dans une logique d'endiguement, de containment, comme diraient les Américains.
Alors la question qui se pose, c'est de savoir si l'Afghanistan peut redevenir une base arrière du terrorisme. Joe Biden, le président américain, affirme que non, mais qu'en est-il réellement ?
Joe Biden a aussi affirmé qu'il n'y avait plus de lien entre les talibans et Al-Qaïda, alors qu'on sait que ce n'est pas le cas. Et les images de ces derniers jours à Kaboul le prouvent encore, c'est-à-dire qu'on voit des individus, notamment du mouvement du groupe Haqqani, qui défilent dans Kaboul, alors que ce sont des individus qui sont recherchés par les États-Unis et dont la tête est mise à prix. On a vu encore tout dernièrement aussi un des chefs de la sécurité d'Oussama Ben Laden à Tora Bora rentrer dans sa province de Nangarhar et être accueilli à bras ouverts. Donc ces liens ont continué d'exister pendant 20 ans. Leur nature exacte aujourd'hui n'est pas connue, mais on sait qu'il y a encore des centaines de combattants d'Al-Qaïda, soit liés à Al-Qaïda centrale, soit Al-Qaïda au sous-continent indien, la filiale régionale d'Al-Qaïda. Donc il y a effectivement ce risque de nouveaux sanctuaires. Simplement, les talibans, a priori, n'ont pas intérêt à se lancer dans ce jeu très dangereux, puisqu'ils savent que c'est la ligne rouge pour les Occidentaux. Et en l'occurrence, en 2001, ils avaient vraiment payé un prix très cher aux sanctuaires qu'ils avaient offerts à Al-Qaïda à l'époque, puisque le gouvernement taliban avait été purement et simplement renversé par la force.
En dehors des talibans, vous écrivez que le djihadisme, donc à l'international, demeure bien vivant. Vous dites, il pense les plaies de ses défaites en Irak et en Syrie, mais tient la dragée haute à ses adversaires, notamment au Sahel.
La mouvance djihadiste s'est répandue géographiquement. Aujourd'hui, on a l'impression que le centre de gravité de cette mouvance se déplace vers le sud, donc vers l'Afrique. On a mentionné là les talibans et Al-Qaïda, mais il faut bien sûr aussi parler de Daesh. Daesh qui a constitué le cœur de son sanctuaire en zone syro-irakienne, sanctuaire qui a fini par être détruit à partir de 2017 avec la perte de Mossoul, de Raqqa, et jusqu'en 2019, année où Daesh a perdu son dernier réduit et où al-Baghdadi est décédé. Maintenant, on sait très bien qu'il y a encore des milliers de combattants de Daesh sur cette zone syro-irakienne, mais on sait aussi qu'il y a des combattants de Daesh en Afghanistan. Ils ont perpétré l'attentat à Kaboul il y a quelques jours. Et ces combattants en Afghanistan sont estimés par l'ONU entre 1500 et 2200, donc ce n'est pas rien. Daesh est aussi présente dans d'autres zones, notamment au Sahel. Donc on a vraiment cette bipolarisation de la mouvance djihadiste qui s'est effectuée et qui est probablement durable, avec Al-Qaïda d'un côté, Daesh de l'autre, ça c'est pour la mouvance djihadiste globale, et puis il y a des groupes qui ont des stratégies plus locales, hein, ce qu'on appelle le djihad local, et les talibans expliquent aujourd'hui qu'ils sont dans cette logique de djihad local et qu'ils ne s'aventureront pas à héberger des groupes de portée globale. Mais c'est bien tout l'enjeu aujourd'hui, comment vérifier cet engagement des talibans.
Et l'autre enjeu, les Occidentaux, on le voit, hein, voudraient tourner la page de cette lutte antiterroriste, mais ils ne le pourront pas parce que, comme vous le dites, hein, le djihadisme demeure bien vivant. Quelle forme va pouvoir prendre cette guerre contre le terrorisme ?
Un cycle stratégique s'est ouvert en 2001, le cycle de la guerre globale contre le terrorisme. Et aujourd'hui, il y a une volonté très claire des États-Unis, mais aussi de certains des alliés des Américains, de refermer la parenthèse de ce cycle stratégique de 20 ans. D'où le titre du livre, la guerre de 20 ans. Mais évidemment, l'ennemi est toujours là et il a toujours la volonté de frapper et des moyens de le faire. Donc la lutte contre le terrorisme, du coup, va se poursuivre, mais selon d'autres modalités. Il ne sera sans doute plus question de déployer des dizaines de milliers de militaires sur le terrain, comme ça a été fait en Afghanistan, puis en Irak. Aujourd'hui, on s'achemine vers des modalités de lutte contre le terrorisme plus légères, sur la base de frappes à distance, des frappes de drones notamment, ce qui suppose d'avoir du renseignement, et pour certaines missions, le déploiement de forces spéciales. Joe Biden, quand il était vice-président d'Obama, parlait déjà de contre-terrorisme plus. Le plus, c'était la formation des armées locales. Et avec ce qui vient de se passer en Afghanistan, avec l'effondrement de l'armée nationale afghane, le plus a du plomb dans l'aile.
Alors, à propos des États-Unis et de la période donc post-Afghanistan, vous notez bien aussi dans votre livre qu'il y a une constante dans la diplomatie qui remonte finalement au moment où Hillary Clinton était la secrétaire d'État de Barack Obama quand elle avait parlé du pivot asiatique. Sous Obama, sous Trump et Biden l'a redit, il y a la volonté des États-Unis de quitter le Moyen-Orient et se dirigeant vers l'Asie dans cette idée d'une compétition entre les puissances mondiale, notamment la Chine. Mais dans quel état, finalement, après cette débâcle militaire en Afghanistan, les États-Unis se retrouvent dans ce rapport de force vis-à-vis de la Chine ?
Alors, il y a cette grille de lecture aux États-Unis qui est la suivante, qui est que la Chine est rentrée à l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, en 2001. À partir de ce moment-là, la Chine a connu une ascension fulgurante sur 20 ans. Et dans le même temps, les États-Unis, eux, étaient concentrés sur la lutte contre le terrorisme avec un focus sur le Moyen-Orient, le Grand Moyen-Orient, comme disait George W. Bush. Et aujourd'hui, il y a cette volonté de se tourner vers l'Asie, vers la Chine, vers l'Indo-Pacifique, et de refermer donc cette parenthèse de la guerre contre le terrorisme pour se consacrer à la compétition de puissance. Et comme vous l'avez dit très justement, c'était déjà le plan en fait il y a 10 ans, sauf qu'il y a eu les printemps arabes qui ont contrarié le plan du pivot vers l'Asie avec la montée en puissance de Daesh en zone syro-irakienne. Alors, du point de vue américain, ce qui vient de se passer en Afghanistan ne va pas impacter ce qui se passe en Chine, le rapport de puissance, parce que ce sont des conflits bien différents. Un conflit asymétrique contre des insurgés en Afghanistan, alors que face à la Chine, on est vraiment dans la compétition de puissance avec des équipements militaires très différents, des stratégies très différentes aussi. Et donc précisément, les Américains vont dire « nous avons eu raison de nous retirer de ces guerres lointaines qui, dans le fond, constituent une diversion pour investir beaucoup plus massivement et beaucoup plus sérieusement la compétition de puissance avec des logiques potentiellement de guerre dite de haute intensité. »
Merci Marc Ecker.
C'est moi qui vous remercie.